C'est une joie de vous voir si nombreux ce soir pour cette réflexion sur l'amour de soi-même que le bureau de Spi&Spi a mis en place. Donc, je suis le père Pierre-Marie Castaignos. J'appartiens à la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Et puis, j'ai fondé en 2008 avec d'autres jeunes Spi&Spi, spirituels, spiritueux, et qui proposent voilà, des réflexions, des temps de réflexion pour des personnes qui, souvent avec la vie professionnelle, remettent un pied dans l'église, ou en tout cas se posent des questions, ou veulent avoir des pistes de réflexion. Et le bureau de Spi&Spi, puisque c'est une association, m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne réfléchiriez pas, méditeriez pas sur l'amour de soi-même? C'est vrai que ce n'est pas un thème que j'ai traité d'habitude, et je vois en même temps que vous êtes venus très nombreux ce soir. Ça soulève deux questions. La première, qui suis-je? L'amour de soi-même, qui suis-je? Et la deuxième, c'est quelle est ma valeur? Parce qu'à travers cet amour de soi-même, c'est se questionner sur notre manière d'être, personnellement, en société, mais aussi la valeur que nous avons face aux autres. Et on sent que, à travers nos sociétés contemporaines, ce nouveau concept est apparu. Parce que c'est des sociétés qui sont plus individualistes. Auparavant, on pourrait dire, la génération de vos parents et encore plus de vos grands-parents, c'était sur des rails, la société nous donnait une place. Maintenant, il y a beaucoup plus d'insécurité, d'instabilité. Je sens, moi, je suis plus ou moins de la génération de vos parents, voir que cette société est plus dure, plus insécure, plus de mobilité sociale. L'amour de soi repose beaucoup plus sur le mérite personnel. Je vaux la place que je me suis battu pour avoir. Si je n'ai pas de place professionnellement, sentimentalement ou socialement, c'est que je m'y suis mal pris. Donc, c'est intéressant de voir dans cette introduction de l'amour de soi-même implique aussi l'impact que je peux avoir sur les autres et puis aussi la manière dont je me suis pris pour pouvoir avoir ma place dans cette société qui repose encore une fois sur le mérite et pas tant sur une situation voilà, qui pourrait me donner un certain confort intérieur, confort dans les relations, etc. Tout de suite, le premier point, c'est de tordre le cou que l'amour de soi-même est contraire à la vie chrétienne. Tordre le cou à ça, et j'en veux pour preuve deux citations. Premièrement, dans saint Matthieu, au chapitre 22, de 36 à 40, Maître dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répond, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Donc, il y a pu avoir des spirituels ou des pères de l'Église qui ont pu dévaloriser l'amour de soi-même ou voir l'amour de soi-même comme une sorte d'orgueil, voilà, d'exaltation de l'ego, etc. Mais quand on va aux sources et à la parole de Dieu et singulièrement à l'Évangile, on voit qu'il n'en est pas ainsi. Sachant que l'Évangile lui-même, Jésus, quand il parle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il fait allusion à l'Ancien Testament. Dans le Lévitique, au chapitre 18, verset 19, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de solennité quand on dit je suis le Seigneur, je suis, vous le savez, c'est l'être de Dieu, confier et avoir une confiance dans la présence de Dieu, passe aussi par l'amour de soi-même. Donc, c'est bien de tordre le cou à ces oppositions qu'on peut entendre, au fond, mais oui, mais ce qu'est-ce que soi-même, ce n'est pas se replier sur soi-même, est-ce que ce n'est pas être dans sa bulle, est-ce que ce n'est pas contraire, voire à la charité? Alors que c'est intéressant de voir que les sciences humaines, aujourd'hui, montrent très clairement que les difficultés à s'aimer soi-même engendrent des difficultés dans la charité, engendrent des difficultés dans l'amour des autres. Quelqu'un qui se dévalorise lui-même, quelqu'un qui voire à une difficulté à accepter telle ou telle partie de lui-même, souvent sera handicapé dans la relation. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que ce que dit l'Évangile, les sciences humaines le valident d'une manière ou d'une autre, et que, en tout cas, il n'y a certainement pas d'opposition entre cet amour de soi-même et cet amour de Dieu, même si, on va dire, par exemple, Saint Augustin, vous rappelez, Saint Augustin, il y a deux cités, l'amour de soi au mépris de Dieu, l'amour de Dieu au mépris de soi. Voilà, c'est aussi les débuts de l'Église, il y a l'affirmation d'un Dieu transcendant, l'affirmation que Jésus est vraiment le visage de Dieu, et donc une sorte d'absolu. Mais je trouve que quand on revient au texte de l'Évangile, il en est un peu autrement. À tel point que Saint Thomas d'Aquin dit que s'aimer soi-même est nécessaire pour aimer les autres, et souligne la gradation dans la charité avec un facteur de proximité. Plus la personne est proche, plus on est invité à l'aimer, plus elle est lointaine, plus on est moins impliqué. Hein, nous sommes notre prochain proche pour nous-mêmes. Et Thomas d'Aquin insiste sur cet aspect-là, que l'amour de Dieu, c'est l'amour le plus grand, et c'est l'amour de soi-même aussi, après l'amour de Dieu. Donc, on voit bien que c'est intéressant de ne pas opposer, je vais dire, de ne pas séparer, voire opposer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire et l'amour de soi-même, et l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, c'est tout un, c'est la loi et les prophètes. Donc, voilà, un peu comme introduction de tendre le coude à ce qui pourrait apparaître comme une forme d'opposition ou d'incompréhension dans notre manière de voir. D'où vient un peu la négation un peu de l'amour de soi? Parce que la négation de l'amour de soi fait partie aussi de la tradition catholique, singulièrement. Hein, vous avez plusieurs écoles de la négation de l'amour de soi, et vous pouvez trouver même dans la Bible, même dans l'Évangile, celui qui ne se hait pas lui-même, du verbe haïr, celui qui ne se hait pas lui-même n'est pas digne de moi. Donc, d'où vient la négation de la... Il y a plusieurs choses. Vraiment, le rigorisme moral du 19e siècle et antérieurement le jansénisme. Alors souvent on confond les deux entre jansénisme et rigorisme moral. Le rigorisme moral, c'est vraiment une sorte de rigueur, de rigidité. On met la morale et non pas la vie spirituelle au cœur de la vie chrétienne. Et le jansénisme, c'est autre chose, c'est antérieur. Les dames de Port-Royal, vous savez, les dames de Port-Royal, on disait, elles sont pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Le jansénisme, c'est une erreur sur la grâce. C'est pas une erreur par rapport à la vie morale. Alors que le rigorisme moral, c'est vraiment, on met la vie chrétienne est d'abord une morale. Or non, la vie chrétienne est d'abord une rencontre. Et d'abord une vie de grâce. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que une des dérives qui a permis éventuellement de rejeter l'amour de soi prend un écho, a fait un écho dans le rigorisme moral et le jansénisme. Voilà, donc. Ensuite, il y a un écho aussi qui peut se trouver dans le protestantisme luthérien, qui est très différent de ce point de vue-là du catholicisme. Vous voyez que dans le protestantisme luthérien, et encore plus réformé, c'est-à-dire calviniste, il y a une dimension négative de la nature humaine. La nature humaine n'est pas bonne. La nature humaine, elle est sauvée, mais elle est comme recouverte on pourrait dire, d'un voile recouverte pour cacher sa laideur. Et le salut, ce serait cette couverture. On met une couverture sur la nature humaine, et c'est ça le salut. Ce n'est pas notre manière de voir comme catholique. Pour nous, la nature humaine est bonne, mais cette nature humaine, elle est blessée par le péché originel. Et le salut, ce n'est pas juste recouvrir le péché, mais le salut, c'est vraiment transformer de l'intérieur la personne. Je trouve ça, c'est assez important de voir que cette dimension protestante, parfois, a peut-être influencé notre manière négative de notre rapport à nous-mêmes, de s'aimer nous-mêmes. Mais rappelons-nous aussi un autre point, s'aimer soi-même, c'est un commandement, ce n'est pas juste une option. Hein. C'est les deux grands commandements à cela, voilà, qui résument la loi et les prophètes, hein, qu'on a entendu Jésus qui cite dans ce testament. Voilà, donc l'amour de soi n'est pas un narcissisme. Hein. Certains trouvent dans la haine de soi une justification spirituelle. Et oui. Oui, vous avez pu avoir des auteurs qui ont dit, voilà, je me hais moi-même, je me dénigre moi-même parce que j'aime Dieu. C'est pas ça le sens de l'écriture. En tout cas, c'est pas dans ce sens-là que vont les spirituels, même si vous pouvez éventuellement trouver certains auteurs qui vont dans ce sens-là, d'une justification de la dénégation de soi, voilà, de dire, voilà, en fait, c'est du narcissisme, l'amour de soi-même, c'est du narcissisme. Et donc, ce qui vaut vraiment, c'est la haine de soi comme une justification spirituelle. On s'offre en sacrifice. Je trouve que. Alors, c'est vrai, il y a le trop et le pas assez. Il faut faire attention à ça. Le trop d'amour de soi, ça peut être clairement une autocélébration, une sorte d'exaltation. Mais le manque d'amour de soi, ça peut être aussi une difficulté dans la relation à l'autre. Parce que les difficultés dans la relation à l'autre et les sciences humaines, la psychologie singulièrement, ont montré que la difficulté de relation à soi engendrait une difficulté de relation à l'autre. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais. Je trouve ça intéressant de voir que l'amour de soi n'est ni une autocélébration, ni un dénigrement de soi-même, mais une juste appréciation. L'humilité, c'est un juste milieu entre l'exaltation de son ego et le dénigrement de soi. Il y a la place aussi pour une légitime fierté, vous voyez. Il y a une place pour une légitime fierté, c'est-à-dire, voilà, qui n'est pas d'orgueil, parce que tout de suite, nous, en tout cas dans le schéma catholique, amour de soi, orgueil. Non, non, c'est pas ce que dit l'Écriture. Il y a la place pour une légitime fierté de ce que l'on est, comme don de Dieu. Et on voit dans la Vierge Marie, par exemple, toutes les générations diront bienheureuse. On dit, mais celle-là, elle se prend pour qui? Mais justement, elle est la Vierge Marie, elle a reçu la plénitude du Saint-Esprit, et elle dit, par grâce de Dieu, voilà, toutes les générations me diront bienheureuse, mais c'est vraiment par grâce de Dieu. À travers ce sujet qui peut paraître assez simple, l'amour de soi, il y a un enjeu théologique qui est un peu complexe, pardon, mais de dire la place de la nature, de la place de la grâce. La nature est grâce. C'est nous-mêmes, nous voyons une communion entre la nature et la grâce venant sauver la nature humaine, lui donnant sa beauté originelle, voire plus que sa beauté originelle, puisque le salut, évidemment, nous entraîne plus loin dans la communion avec Dieu que si nous n'avions pas péché. Donc c'est intéressant de dire au fond les personnalités narcissiques ou ceux qui ont un déficit d'estime de soi, et le comble en remplaçant par les autres, en s'exaltant et parfois même en se mettant en situation de toute puissance. Ce qu'il faut dénoncer dans l'amour de soi, c'est la toute puissance. La toute puissance, c'est une forme d'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose ou quelqu'un, à lui donner la place que Dieu seul peut occuper. Et là, évidemment, on s'inscrit en faux, hein, puisque l'idolâtrie n'est pas l'amour de soi, on a une juste mesure entre trop d'amour de soi, trop d'exaltation de soi-même, trop de manière de se voir positive, de se mettre au centre, et un pas assez, entre un trop et un pas assez, un dénigrement de soi-même, au contraire, une sorte d'auto-flagellation. Voilà. Entre les deux, il y a la place pour une légitime acceptation de soi-même et un légitime accueil de ce que l'on est, de notre humanité. Alors oui, ça veut dire aussi un combat spirituel. Ça veut dire un combat spirituel, c'est. Voilà, entre les deux, entre l'amour de soi et la haine de soi, voilà, il y a la place pour une légitime fierté, mais voilà, où est-ce que parfois je ne place pas trop le curseur dans un sens ou dans un autre, c'est à chacun d'y répondre de façon personnelle. Et on voit qu'il y a des tas de gens qui s'autoflagellent, se mordent, voire se giflent, et quand ils estiment avoir fait une erreur, une bourde, je suis une mauvaise personne. Hein, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une personne et qui me disait, quand j'ai fait une erreur, je me donne une gifle. Tu es nul. Oui, ça, c'est pas de Dieu. Ça peut aller, bon, dans les cas extrêmes, mais évidemment, dans les scarifications. Vous voyez, les scarifications, on s'entaille la chair. Des personnes qui maltraitent leur corps ou les font maltraiter par d'autres. Ça, c'est pas de Dieu. Oui, c'est parce que derrière ça, il y a un vrai rejet de la beauté de ce que nous sommes. Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu jusque dans notre corps, et que s'autoflageller, se gifler, se faire du mal à soi-même, se mordre, voilà, c'est tout ça, ça dit quelque chose d'une non-acceptation de soi-même. Ça dit quelque chose d'une manière de se voir soi-même qui n'est pas en place. Vous voyez, c'est souvent une blessure, c'est souvent une manière de se voir soi-même qui nous déprécie, et donc du coup on ne se sent pas à la hauteur. Peut-être parce que nos propres parents nous ont mis la barre un peu haute. Vous voyez, si vous avez des parents perfectionnistes, par exemple, des parents perfectionnistes où il faut être au top, on vous a mis une sorte de pression, même pour la question scolaire, on vous a mis une pression, il fallait aller dans les meilleures écoles, dans ceci, dans cela. Voilà, ça crée un stress, ça crée une difficulté à s'accepter soi-même, qui n'est pas rien, je veux dire, qui peut aller jusqu'à au rejet de soi-même et à la maltraitance de soi-même, nous-mêmes. Pas par les autres, mais par nous-mêmes, nous maltraitons. Donc, soyons attentifs que cette maltraitance de soi-même, cette dénégation de soi-même, ce reniement de nous-mêmes, entraînera forcément, dans la relation avec autrui, des conséquences, forcément. Ça ne peut pas être sans conséquences. Donc, si vous avez du mal à rentrer en relation, ou dans singulièrement vos relations amoureuses, puisque je suis plus impliqué dans ce ministère-là d'accompagnement des couples, je vois les difficultés que les couples ont, que l'un ou l'autre, le mari ou l'homme ou la femme, ont de s'accepter soi-même. Ces difficultés-là, évidemment, rejaillissent sur les couples et sur la relation de couple, ce qui fait qu'il y a peut-être une sorte de parasite, une sorte de handicap relationnel, parce que je ne m'accueille pas tel que je suis. Donc, je trouve ça intéressant d'être attentif à ce point-là, et de se rappeler de la règle d'or, en Matthieu 7, 12, fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi-même. Hein, donc, et bien distinguer l'amour propre et l'amour de soi, parce que parfois, on voit dans une littérature, il faut enlever, déraciner en nous l'amour propre. L'amour propre, c'est l'amour de soi comme orgueil, comme vanité, comme exaltation. Mais il y a un vrai amour de soi qui est bon, qui est synonyme de charité. Et celui-là, il faut le trouver. Et nous y sommes appelés. S'aimer, c'est se vouloir du bien, être bienveillant. Et oui, ce que veut dire s'aimer soi-même, d'avoir une bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas une complaisance, justement, soyez attentifs. On dit, mais bienveillant, mais du coup, vous pardonnez tout, on est complaisant avec nos défauts. Non, on a une bienveillance, c'est-à-dire on a une patience avec vous. Et moi, j'aimerais que vous interrogiez vos impatiences avec vous-même. Est-ce que, en quoi ces impatiences avec vous-même vous rendent difficile l'accès aux autres? En quoi vos impatiences avec vous-même fait que, face aux autres, face au prochain proche, parce qu'on parle du prochain proche, que ce soit la famille ou la personne dont je suis amoureux, amoureuse, eh bien, ces personnes-là, ces manques de patience, ces manques d'empathie, ces manques de douceur vont rejaillir sur l'autre. Où en êtes-vous dans la douceur, dans l'accueil de vous-même? Est-ce que vous avez une certaine douceur? Est-ce que vous avez une tendresse envers vous-même? Voilà, c'est... sachant que vous faites votre maximum. Voilà, c'est... Mais il y a une éducation, parfois, qui dit non, t'es une mauvaise personne. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui a une éducation perfectionniste. Elle arrive toute fière, elle était en première ou en seconde, je ne me rappelle plus. Bon, avec une note, j'ai eu 18 sur 20, papa. Et le père répond, bon, pourquoi t'as pas eu 20 sur 20? Pourquoi t'as pas eu 20 sur 20? Ça casse un truc comme ça. Si vous avez été cassé dans votre enfance, parce que pas reconnu dans le bien que vous faisiez, soyez attentif de ne pas prendre la dévalorisation de vous-même comme un chemin de spiritualité, parce que c'est un chemin qui est une impasse. Je vous en conjure, vraiment. Si vous avez été dans cette éducation-là où on ne vous a pas reconnu, on vous a mis une pression, on vous a dévalorisé, j'ai 16 sur 20, mais pourquoi t'as pas 16 sur 20, ma fille? Voilà. Comment ensuite construire une relation amoureuse stable? Comment ne pas reporter sur l'autre ses propres exigences? Comment ne pas reporter sur l'autre sa dureté? Comment être bienveillant aussi avec les fragilités de l'autre? Vous en êtes où, mes amis, vous en êtes où dans l'accueil de vos propres fragilités? Parce que nos fragilités, c'est souvent ce qui est le plus difficile à accueillir. Vous en êtes où? Et si vous êtes dans une relation amoureuse ou amicale, vous en êtes où dans l'accueil de la fragilité? Est-ce que vous voyez dans l'accueil de la fragilité de l'autre une faiblesse intolérable? Est-ce que vous voyez dans la fragilité de l'autre quelque chose que vous ne pouvez pas accepter et qui est dur à vivre? Bien sûr, la fragilité de l'autre, nous questionnons nous-mêmes sur notre propre fragilité. Mais je trouve que c'est la grâce d'être disciple de Jésus que de découvrir dans sa propre fragilité un chemin de relation avec l'autre. Qu'est-ce que c'est que le mariage sinon l'union de deux pauvres? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne que l'accueil de sa propre vulnérabilité? Vous rappelez l'apôtre saint Paul qui dit « Nous portons des trésors dans des vases d'argile ». Oui, mais nous les portons. Nous sommes des vases d'argile et en même temps, nous portons quelque chose qui nous dépasse. Toute la vie chrétienne, et je trouve dans cette phrase-là, le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. Le chrétien c'est celui qui n'est pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir, mais dis seulement une parole. Celui qui n'est pas digne de la grandeur de Dieu, et pourtant l'accueille par le baptême. Vous savez, par le baptême, c'est ce qu'on appelle... C'est un mot un petit peu compliqué, pardon, mais l'inhabitation de la Trinité en nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par le baptême, nous avons dans la foi la certitude que Dieu vient habiter notre âme. Nous sommes les tabernacles du Saint-Esprit. Mais à la fois, nous sommes tabernacles du Saint-Esprit et à la fois, nous sommes fragiles. Comment tenir à la fois ce... Et je trouve que c'est quelque chose que, au fond, vous devriez méditer. À la fois fragile et à la fois transcendant, cette fragilité, cette transcendance, cette grandeur et cette petitesse que nous résumons dans notre pâte humaine. Et c'est la condition d'accueillir sa fragilité, sa vulnérabilité, la condition d'une charité envers l'autre. Et les difficultés d'accueil de sa vulnérabilité forcément vont engendrer des difficultés dans la construction d'une relation amoureuse. C'est évident. C'est juste une évidence. Et en même temps, c'est ce qui est le plus difficile. Et moi, j'aime bien poser la question, dans les préparations de mariage, je pose la question, je dis, ben, est-ce que vous montrez vos vulnérabilités, vos fragilités aux autres? Est-ce que vous acceptez de les exposer? Là où vous n'êtes pas top, là où vous êtes nul, là où vous n'y arrivez pas, est-ce que vous les montrez à l'autre? Est-ce que vous les montrez au Seigneur? Parce que c'est en montrant au Seigneur, et donc en montrant à l'autre, que vous allez pouvoir grandir et sortir d'une forme de solitude qui vous enferme. Et ça, je me permets d'insister pour vous qui êtes à une époque tellement importante de vos vies, c'est pour ça que j'ai tellement de tendresse pour votre génération, tellement de tendresse, d'empathie, parce que ce qui vient devant vous, c'est quelque chose qui n'est pas facile et ma génération, grosso modo la génération de vos parents, vous alléguez un monde qui n'était pas simple. Mais en même temps, croyez que vous êtes mieux armé que d'autres pour affronter ce monde pas simple. Pourquoi mieux armé? Parce que vous connaissez de plus près la nature humaine. Et pourquoi vous connaissez de plus près la nature humaine? Parce que vous connaissez Dieu lui-même. Vous êtes rentré dans le dialogue entre Dieu et la nature humaine. Et évidemment, la nature divine vient éclairer la nature humaine. Et donc vous êtes mieux placés que d'autres qui n'ont pas la foi, qui sont perdus, certainement bien plus perdus que vous, parce que vous avez la foi, parce que eh bien, vous venez éclairer, donner une lumière, donner une espérance, donner une transcendance à ce qui paraissait bouché comme horizon. Et je pense que c'est vraiment ça que le Seigneur nous appelle à vivre comme disciples de Jésus, découvrir dans nos fragilités le lieu de la communion. Je suis très sensible au fait que Jésus ressuscité, nous sommes dans le temps de Pâques, en cette année 2024, nous sommes dans le temps de Pâques, et Jésus ressuscité vient, d'une certaine manière, redonner sa beauté à la nature humaine. Et il ressuscite avec ses plaies. Et je trouve ça tellement important de dire qu'il ne se montre pas comme une personne impeccable, bodybuildée, voilà, qui est dans une toute puissance de. Non, il montre ses plaies. Mais ses plaies sont lumineuses. Vous vous rappelez les premières apparitions du ressuscité? Mets tes doigts dans mes plaies, mets ta main dans la blessure de mon côté, hein, Thomas. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et je pense que notre vie chrétienne, c'est de dire que nous avons des plaies, mais nous pouvons construire. Parce que nous avons des plaies, nous pouvons revendiquer un horizon, une espérance, un ailleurs, un au-delà. Et ça, je pense que c'est typique de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une perfection, ce n'est pas une impeccabilité. La vie chrétienne, c'est une fragilité. Mais cette fragilité est habitée par la gloire de Dieu. Dans ça, dans ces blessures, dit l'Écriture, nous avons trouvé la guérison. Et méditer sur Jésus ressuscité, c'est méditer sur une guérison qu'il nous donne à travers ses blessures. C'est méditer sur l'acceptation d'une fragilité, et donc l'acceptation de soi-même, et donc l'amour de soi-même, qui va permettre d'aller au-delà des blocages que l'on peut avoir. Je trouve que c'est vraiment très beau, notre vie chrétienne. Qu'est-ce que notre foi est belle? Qu'est-ce que notre foi est belle? Elle est vraiment belle, elle est vraiment inspirante, notre foi, parce qu'elle nous laisse la possibilité à l'erreur, elle nous laisse la possibilité à l'échec, voire elle laisse la possibilité au péché. Bien sûr, elle ne valide pas l'encouragement, mais elle laisse une possibilité au péché, parce qu'elle connaît la nature humaine comme blessée. Mais de ce péché, de cette blessure, jaillit une guérison, jaillit une lumière. Nous sommes lumineux quand nous accueillons nos blessures. J'aime bien ce jeu de mots. Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. C'est un jeu de mots, mais que je trouve assez inspirant, parce que c'est typiquement chrétien. Nous n'essayons pas de rentrer dans une perfectionnisme, dans une impeccabilité, mais qui nous enfermerait, vous voyez, qui. Ce n'est pas le chemin vers Dieu. Ce n'est pas le chemin de la charité. Ce n'est pas le chemin ni vers soi-même, ni vers l'autre. S'enfermer là-dedans, c'est aller dans quelque chose de mortifère. Et Jésus nous dit, non, n'allez pas, choisissez la vie. Choisissez la vie, c'est choisissez aussi la vulnérabilité. Choisissez d'être des vases d'argile et d'être des trésors en même temps. Alors oui, vous pourrez être témoin d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. C'est le cœur même du mystère de Pâques. La Pâque, vous savez ce que ça veut dire, Pâques? Pâques, ça veut dire passage. Hein, ça veut dire passage. C'est intéressant de voir le peuple des Hébreux. Le mot hébreu veut dire passeur. Passeur de la mer Rouge, évidemment. Hein, vous vous rappelez ce passage de la mer Rouge, un peu avec les effets spéciaux, etc. La mer avec deux parois et le peuple hébreu qui passe au milieu, etc. Guidé par la Shekhina, c'est-à-dire que ça. Guidé par la lumière de Dieu, par la nuée lumineuse, qui était lumineuse pour les Hébreux et ténébreuse pour les Égyptiens, et qui sont passés à travers ces eaux, qui formaient une muraille à la droite et à la gauche, et sont rentrés ensuite, sont sortis d'Égypte, et ont poussé un cri d'allégresse. Et quand vous entendez ça, un peuple hébreu qui, dans la matrice égyptienne, a grossi, est sorti par les eaux et a crié, évidemment. Évidemment, vous pensez à un accouchement. Un accouchement, en fait, la Pâque, c'est un accouchement. Un accouchement, c'est-à-dire une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau qui viendra de la grâce de Dieu, qui fera que là où vous étiez peut-être menacé, où vous étiez dans une logique de mort, comme les Hébreux en terre égyptienne, comme soumis à l'esclavage, eh bien, Dieu vous emmènera vers la liberté. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre vie chrétienne. Je pense que c'est très beau dans notre vie évangélique de découvrir que Jésus nous emmène plus loin que nos peurs, nous emmène plus loin que nos blocages, nos regards négatifs sur nous-mêmes. Il nous emmène à travers ombre et lumière, à travers la nuée lumineuse qui est à la fois lumineuse et ténébreuse, lumineuse pour les uns, ténébreuse pour les autres. Cette présence, ce Shekhina, la présence que les Hébreux appellent la présence féminine de Dieu, eh bien cette présence de Dieu, elle nous emmène plus loin que nos blocages. Au fond, la Pâque, je me dis, est-ce que c'est pas sortir de ce blocage-là, de ce blocage, on est resté bloqué dans le regard sur nous-mêmes. On est resté bloqué dans une négativité, on est resté bloqué dans une condamnation de nous-mêmes, on est resté bloqué dans une culpabilisation de nous-mêmes. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, à mes corps. Et rentrer dans cette dénégation de soi-même, en tout cas, je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas. Je trouve que c'est mortifère. Je trouve que c'est vraiment, comment on peut dire, ça ferme des portes, ça ferme des ouvertures, ça ferme des possibles, ça ferme des horizons. Cette dénégation de soi-même, cette haine, voire cette dévalorisation de soi-même. Je trouve que Jésus, à travers son évangile, nous dit, tiens, au fond, en me regardant, tu peux aussi découvrir la vraie valeur de ce que tu es. Et je pense que ça a été, dans l'évangile, quelque chose d'habituel. Quand vous regardez, par exemple, les rencontres de Jésus dans l'évangile, avec Marthe et Marie, avec Zachée, avec la Samaritaine, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille le désir de vie. Il nous rend vivants. Il rend vivants et vivantes les personnes, les hommes et les femmes qu'il rencontre. Enfin, il leur redonne vie. Et ça, je pense que c'est vraiment notre vocation de chrétien, de redonner vie à ce qui paraissait mort, de redonner espoir à ce qui paraissait fermé, de redonner une capacité de don à ce qui paraissait bloqué. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre vie chrétienne. Et frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes, nous sommes attendus là. Nous sommes attendus là. Parce que nous sommes les seuls à découvrir dans la fragilité un chemin, dans la vulnérabilité une espérance, dans la charité, une grandeur et un horizon. Nous sommes les seuls de dire que dans notre humanité, il y a quelque chose de transcendant qui se joue la divinité. Nous sommes la religion de l'incarnation, nous sommes la religion de la disproportion, nous sommes la religion du vertige, nous sommes la religion des médiations. Tout ça c'est pareil, tout ça c'est synonyme. De découvrir dans notre fragilité une transcendance, c'est le cœur de la vie chrétienne. On n'a pas besoin d'être parfait, d'être impeccable, etc. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que, dans nos humanités, avec modestie, simplicité, humilité, nous découvrions un chemin pour aller vers la transcendance, vers la gloire, vers la résurrection. Donc oui, c'est, je trouve que c'est beau de vivre ainsi. C'est beau de découvrir ça, de s'aimer soi-même, c'est vouloir du bien-être, du bien pour soi, être bienveillant. Et être bienveillant, c'est un autre point, être bienveillant à différents niveaux. Premièrement, la bienveillance par rapport au corps. Et être bienveillant, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre corps, dans notre corps. Nous sommes unité, comme on dit, un mot compliqué dans théologie, unité consubstantielle de l'âme et du corps. Voilà, c'est à mes corps, ça fait un. Et séparé à mes corps, c'est quoi si ce n'est mortifère, synonyme d'un non-avenir. Et donc, nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à nous aimer en aimant aussi notre corps qui n'est pas un obstacle pour aller vers Dieu, comme le croyaient les platoniciens ou les néoplatoniciens. Vous savez que les premiers chrétiens étaient des néoplatoniciens. C'est-à-dire des personnes qui pensaient que le corps est un obstacle vers Dieu. Parce que Platon, c'est le corps prison de l'âme. Si on veut aller vers le monde des idées, si on veut aller vers le monde du parfait, du spirituel, il faut s'échapper de son corps. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Ce n'est pas une attitude d'incarnation qui est le propre de la critique chrétienne. Je crois que vraiment, ça c'est quelque chose contre lequel il faut lutter très fort et qui reste quand même présent dans notre vie, le fait de découvrir que dans notre humanité, nous sommes aussi corps et âme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vraiment, je crois que c'est capital. Ensuite, c'est l'aimer son corps, une vision positive sur la sexualité. Évidemment, dans la préparation au mariage, on aborde la question de la sexualité. Et j'aime bien dire aux parents, et singulièrement aux hommes, c'est pas parce que vous êtes les pères d'une fille ou des filles, au pluriel, que vous êtes moins père. Ça veut dire que quel est le premier regard d'homme qu'une petite fille rencontre, si ce n'est le regard de son père? Et où est-ce qu'elle découvre et la valeur de sa beauté, et sa confiance en sa féminité, et la beauté aussi, et la grandeur de son propre corps qui doit être protégé de toute forme d'abus. Donc, je trouve ça intéressant de dire qu'au fond, le fait d'être père, c'est transmettre un regard, et singulièrement quand on est père de fille, de transmettre un regard positif par rapport à ces filles, ces futures jeunes femmes qui vous sont confiées comme hommes. Et le premier regard qui se pose sur le regard d'une jeune fille, d'une petite fille, d'une jeune femme, c'est le regard de son père. Et n'hésitez pas, messieurs, à dire à vos filles qu'elles sont belles. Il n'y a pas d'impudeur, il n'y a pas de manque de... Voilà, c'est pas déplacé. Elles sont belles dans leur capacité de don. Elles sont belles dans leur capacité de rayonner. Vous voyez, ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et je me permets d'insister, messieurs, sur votre rôle dans le fait de conforter vos filles dans leur féminité, dans leur beauté et en même temps dans leur grandeur et dans leur capacité de don. Mais aussi vos fils. Hein, mon fils, moi, tu es un champion, tu es comme papa, etc. C'est important. Le regard du père, ça, ce qui conforte, ce qui encourage dans l'accueil de son propre corps, dans l'accueil de sa propre sexualité, et de voir cette sexualité comme positive, parce que j'ai eu un regard positif de mon père, tant sur mon corps de femme que sur mon corps d'homme. Vous voyez, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à jouer, je veux dire, où les hommes parfois sont pas, et les pères sont pas forcément au rendez-vous. Vous vous rappelez ce titre hein, d'un livre, Père manquant, fils manqué. Hein, c'est de Guy Corneau, hein, ce livre-là, ça, au titre redoutable, Père manquant, fils manqué. L'accueil de son propre corps, aimer son propre corps, ça passe beaucoup par le regard du père. Du père qui est à la fois chaste, évidemment, hein, et du père qui est encourageant, du père qui manifeste la beauté, du père qui valorise son garçon, sa fille. Hein, parce qu'aussi, il valorise dans sa femme une capacité de don, une beauté. Évidemment, le lien, le regard qu'il portera sur son épouse, évidemment, rayonnera positivement comme négativement sur les enfants. Donc je pense que c'est important d'aimer son propre corps, d'avoir une vision positive de la sexualité. On ne peut que faire mémoire du pape Jean-Paul II, qui a redonné à l'Église et à la sexualité singulièrement ses lettres de noblesse. Qui a redonné à la sexualité ses lettres de noblesse. Le pape Jean-Paul II a écrit tout un compendium, on peut dire comme ça, une série de textes très longs, sur 6-7 ans au moins, au début de son pontificat. Donc, pas seulement quand il était prêtre, il avait travaillé sur ces questions-là, pas seulement quand il était évêque de Cracovie, mais comme pape, comme souverain pontife, successeur de Pierre, il a donné des enseignements qui portent le nom de la théologie du corps sur la beauté de la sexualité dans le plan de Dieu. Et ça, aucun pape ne l'avait fait avec cette autorité-là. Et je trouve ça beau que le Saint-Père Jean-Paul II nous ait donné cet héritage parce que nous en avions besoin. Parce que, encore une fois, ce côté négatif du corps comme prison de l'âme, comme néoplatonicien d'une certaine manière, s'est emparé un peu de l'Église et des chrétiens et des spirituels. Et de voir la sexualité comme quelque chose de sale. Eh bien non, pour nous, la sexualité n'est pas sale. La sexualité, c'est le lieu du don. La sexualité, c'est le lieu de la communion. Ensuite, après le corps, c'est l'affectivité, l'expression de ses sentiments. Ça, beau de voir comment aussi l'accueil, s'aimer soi-même, c'est accueillir sa sensibilité. Oui, on ne choisit pas son corps, on ne choisit pas sa sensibilité. Il y en a qui sont hypersensibles, il y en a qui ont une sensibilité artistique, il y en a qui ont une intelligence plutôt conceptuelle, d'autres plus émotionnelle, etc. D'accueillir sa sensibilité. Et d'avoir, voilà, d'y découvrir aussi une trace de l'amour de Dieu dans cette sensibilité. Avec la sensibilité, après, c'est l'imagination, donc la créativité. C'est important d'avoir un regard positif sur l'imagination, en général sur notre nature humaine, mais singulièrement sur l'imagination. Et puis l'intelligence et la volonté, qui sont les formes les plus élevées de notre humanité. L'intelligence dont le bien c'est la vérité, et la volonté dont le bien est l'amour, eh bien, aimer son intelligence, aimer sa volonté, sa capacité d'engagement, fait partie de l'amour soi-même. Donc, je reprends un peu l'amour du corps, l'amour de la sensibilité, l'amour de l'imaginaire, de l'intelligence et de la volonté. Ça fait partie aussi de l'amour soi-même, ça détaille un peu l'amour soi-même. Et évidemment, ça trouve sa forme dans l'amour de Dieu qui est le plus grand bien, qui nous donne le repos, la paix. Et oui, seul Dieu nous donne le repos. Le Shabbat, le grand Shabbat, c'est Dieu qui nous le donne. Et le fait d'accueillir l'amour de Dieu comme dans une vraie reconnaissance et dans une gratitude, évidemment, se reconnaître l'amour de Dieu dans une gratitude, va nous permettre d'accueillir la totalité de notre être et de découvrir Dieu qui est celui qui donne le repos. Qu'est-ce qui se pose le plus au repos, sinon les dérives idolâtriques? L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. L'idolâtrie, c'est ne jamais avoir de repos. C'est toujours plus d'argent, toujours plus de valorisation, toujours plus de plaisir, toujours plus de ceci, de cela, de possession, de vouloir plaire aux autres. On est dans une sorte de le hamster dans la roue. C'est ça la toute-puissance. C'est ça l'idolâtrie, le hamster dans la roue. Et ça, c'est pas de Dieu. Et ça nous dévalorise nous-mêmes. Ça nous dévalorise nous-mêmes. Et donc, je pense que c'est très beau de voir que le Seigneur, c'est le Dieu qui nous donne le repos, le Dieu de la paix, qui nous introduit dans une dimension contemplative de nous-mêmes. Et là, si le perfectionnisme est un obstacle à l'accueil de soi, l'activisme est aussi un autre obstacle. C'est quoi l'activisme? Mettre dans 24 heures plus que 24 heures. Bourrer le temps, avoir un rapport au temps qui n'est pas équilibré, avoir un rapport au temps qui est stressé, angoissé, parce qu'on veut plus de 24 heures dans 24 heures. Et donc, je trouve c'est intéressant de voir que Jésus est le repos, introduit notre âme dans le repos de Dieu, parce qu'il nous donne la capacité de contempler, il nous donne du temps, il nous donne une autre manière d'aimer ce temps, et il nous donne de la patience. De la patience face à nous-mêmes, de la patience face à notre prochain proche. Pour terminer, j'aimerais parler de ces différentes formes d'amour. On peut dire qu'il y a trois grandes formes d'amour. L'amour de l'autre pour soi, un peu l'amour enfantin. L'autre, est, je capte l'autre pour moi-même. L'autre est le prolongement de moi-même. C'est cet amour qui veut combler une faille, j'allais dire, narcissique, voilà. Qui veut se nourrir de l'autre. L'amour de soi pour soi, c'est l'amour adolescente. Apprendre à... on s'aime soi-même pour soi-même, les autres nous aiment. Voilà, donc. Et l'amour de soi pour l'autre, qui est l'amour adulte. Mettre son bonheur à se donner à l'autre. L'âge adulte. Habiter avec soi-même n'est pas égoïste. C'est la première réconciliation qui permet toutes les autres réconciliations. C'est ce que disait Don Ramon, bénédictin, qui a restauré la vie monastique au Bec-et-Loin, dont il fut l'abbé. Donc, il disait, au fond, l'amour de soi, la réconciliation avec tout, habiter avec soi-même, n'est pas égoïste, c'est la première réconciliation qui permet toutes les réconciliations. Et je trouve ça, la vie monastique, et singulièrement la vie chrétienne, dont la vie monastique est un témoin, nous permet de rentrer dans cette réconciliation, dans cet amour de soi positif, de cet amour de soi qui nous oriente vers le don. Dieu nous posera la question quand on arrivera vers lui, est-ce que tu t'es aimé toi-même? Est-ce que tu as pu, en t'aimant toi-même, aimer l'autre? Sachant qu'il y a trois grandes performances, trois grands fléaux à cet amour soi-même, la performance, l'abondance et l'apparence. La performance, c'est l'efficacité, c'est l'exaltation de soi-même dans une dimension de toujours plus, de perfectionnisme. L'abondance, on peut dire, c'est l'hyperactivité et l'apparence. Voilà, je suis ce que je suis face au regard de l'autre, et donc je veux me valoriser parce que les autres me valorisent. Ben non, c'est pas comme ça. Ça, c'est trois fléaux de l'amour sur soi-même. Alors, je trouve c'est bien, chers amis, hein, chers jeunes, vous qui êtes venus nombreux ce soir, je trouve c'est bien que vous puissiez méditer là-dessus. Méditer au fond sur ce qui vous aide aussi à vous aimer vous-même. Je pense par exemple, là, il y a une question qui a été posée, qu'est-ce qui me permet de m'aimer soi-même si je n'y arrive pas? Oui, ben, c'est faut, la place de l'amitié. L'amitié, c'est l'amitié sans concession à la fois, qui dit le négatif, mais qui aussi affirme la bienveillance. Oui, je pense que c'est, vous êtes, vous, chers jeunes, dans cet âge de 25-35 ans, jeunes professionnels, en construction, vous habitez le temps de l'amitié. Et les amitiés pour vous, elles sont ces amitiés-là, elles sont structurantes. Donc, réfléchissez aux amitiés qui vous habitent, réfléchissez à ces amitiés qui peuvent vous emmener plus loin que vous-même, qui peuvent aussi vous questionner, vous sortir de votre zone de confort, vous mettre dans des situations difficiles, vous pousser à la conversion, parce que oui, parfois on a une sorte d'ego de soi-même, une auto-célébration de soi-même qui n'est pas bonne. Alors, vous voyez, entre le trop et le pas assez, c'est la place pour le combat spirituel, c'est la place pour l'amour de Dieu, surtout, c'est la place pour la miséricorde et la confiance. Un grand merci pour votre attention.